Vous avez bien fait attention à ce que Vincent a dit à propos des conditions très modestes de la venue de Jésus. Jésus est venu d'une manière formidablement modeste. C'est considérable, en sachant que c'est le Fils de Dieu, il est Dieu, il est Créateur, c'est lui qui reviendra en gloire pour juger les nations, c'est lui qui établira de nouveaux cieux, de nouvelles terres, et il est venu dans des conditions extrêmement modestes, très humbles. Et ce n'est pas un roman-film, ce n'est pas une fable. C'est parce que Dieu connaît le danger de l'orgueil sur la terre. Dieu connaît le risque que les hommes ont chaque fois que ça brille, chaque fois que c'est puissant, chaque fois que c'est exceptionnel. Et donc, il a voulu déjouer cette espèce de gloire dans laquelle nous, on veut toujours se couler, on veut toujours se mettre. C'est plutôt humiliant pour tous les orgueilleux, pour tous les vaniteux. C'est le Fils de Dieu est venu de manière humble pour ne pas répondre à l'attente que le péché crée en nous. Donc, dans Philippiens, chapitre 2, c'est extrêmement important de savoir qu'il n'y a rien d'accidentel dans la façon dont Jésus est né. Jésus n'est pas né dans des circonstances dramatiques, il aurait pu naître dans la cour d'un roi, d'un prince. Regardez, Moïse a grandi dans la cour de Pharaon. Daniel a vécu, bien qu'il était l'otage, il a vécu à la place la plus éminente, à côté de l'empereur, de quatre empereurs de Babylone. Et donc, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut. Et il a choisi de ne pas répondre aux attentes humaines. Les attentes sont toujours pour le succès, pour la brillance. Et ce n'est pas le cas de Jésus. Alors, dans Philippiens, chapitre 2, verset 5, « Ayant vous les sentiments qui étant Jésus-Christ, on va y revenir, lequel, existant comme Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, d'esclave, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ et Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Donc, vous voyez, il y a une trajectoire tout à fait bien précise. Dans ce monde de péché, Dieu ne veut pas répondre aux critères de ce monde, aux paramètres qui sont dans les consciences des hommes, qui sont toujours attachés à la vanité. Et c'est seulement après, quand Jésus est ressuscité et glorifié, qu'il l'élève. Il l'élève pourquoi ? Parce que là, Jésus a mis le prix qui peut sauver les hommes. Et en plus, Jésus est vivant, il est agissant aujourd'hui, et c'est parce qu'il est grand, c'est parce qu'il est tout puissant. Mais encore aujourd'hui, quand Jésus agit, il le fait d'une manière à ne pas attirer la fausse adoration, la fausse foi. Il agit pour attirer les cœurs qui aiment la vérité, les cœurs purs, les cœurs que Dieu a préparés d'avance pour le rencontrer. Il n'y a pas aujourd'hui dans Jésus de Nazareth, tout puissant, qui agit aujourd'hui et qui répond à la foi, à la prière de ses enfants, il n'y a pas d'intérêt pour la puissance. Il n'y a pas d'intérêt pour le matu-vu, pour le marketing de son nom, de sa personne. Il y aura un jour une manifestation en gloire de Jésus qui impressionnera les païens, les mauvaises consciences, et qui leur donnera la terreur. c'est lorsque le Père enverra Jésus comme juge sur la terre. Et bien sûr, pour ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont toujours été attirés vers lui, qui ont répondu à cette attirance, qui se sont laissés conduire, et qui ont trouvé le vrai Dieu en Jésus, ceux-là n'auront pas peur. Ceux-là seront ses brebis, ses enfants. Ils seront avec lui. Ceux-là ont de l'huile dans la lampe et ils seront pris avec lui. Ils seront mis de côté. Donc il y a trois moments, je pense, trois façons de se comporter chez Jésus, chez le Fils de Dieu. Il faut les connaître. Et le temps d'aujourd'hui, le grand problème de beaucoup de chrétiens, c'est de se dire, mais où est donc Jésus? Qu'est-ce qu'il fait donc? Il y a quelque part une faillite dans la foi à cause de ce raisonnement qui ne devrait pas exister. Pour moi, qu'il ne devrait pas exister. Alors, on va regarder l'époque où Jésus était sur terre pendant 33 ans pour se rendre compte comment il dresse, comment il éduque ses apôtres, ses disciples, les femmes aussi. Quelque part, il les conditionne pour apprendre vraiment comment il faut le voir, comment il faut le comprendre. Et après, dans les actes des apôtres, c'est très important. C'est notre éducation, la parole de Dieu. Donc, il y a bien sûr un fait exceptionnel, mais il est très exceptionnel. Il n'est arrivé qu'une fois. C'est dans Matthieu chapitre 17, quand, au verset 1 et suivant, quand Jésus apparaît en gloire à Pierre, Jacques et Jean sur le mont Hermon, au pied du mont Hermon. Il est transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est évident que ça n'arrivait qu'une fois, ce n'était pas tous les jours. Au déjeuner, et au repas de midi, et au soir. Et chaque fois qu'il était au temple, et chaque fois qu'il était en train de crier au soir. Non, jamais. Jésus n'a pas choisi d'apparaître comme ça tous les jours. Il a voulu le montrer au moins une fois à ses disciples. Voyez comme je suis. J'étais comme cela avant de venir parmi vous à Bethléem et pendant les 33 ans de ma vie, je serai comme cela quand je reviendrai. Je serai encore plus, je vous apparaîtrai encore plus dans le ciel. Rappelez-vous la manifestation de Jésus le Christ à Jean l'apôtre, quand il voit Dieu, n'est-ce pas, qu'il voit, c'est toujours le même Jésus de Nazareth qui est en question. Révélation de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 1, verset 1, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître. Bon, c'est révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire, le mot apocalyptein en grec, c'est dévoilement, manifestation, apparition, si vous voulez. Mais c'est plus fort qu'apparition. Alors, qu'est-ce que notre apôtre Jean, notre cher bien-aimé apôtre Jean, a vu? Eh bien, il a vu quelqu'un d'exceptionnel. Et voilà comment il l'appelle. Apocalypse, chapitre 1, verset 4. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Donc Jésus, il est, il était et il vient. Le mot était, ça veut dire a été et il sera. Et qui vient, il est venant. Il va venir et il va venir trier les brebis et les boucs, le blé et l'ivri, il va opérer un jugement sur la terre. Mais non pas seulement pour le jugement. On dirait qu'il peut venir dans la vie de quelqu'un tous les jours. Il peut venir dans la vie de plusieurs peuples, de nations, même d'Israël qui l'avait refusé. Il est toujours agissant. Jésus est toujours agissant. C'est ça que... Lorsque la foi est sentimentale, est basée sur l'épidermique, est basée sur des impressions, lorsque la foi est basée sur la chair, elle est toujours insatisfaite de la présence de Jésus aujourd'hui. Elle est toujours insatisfaite de ce qu'il va faire ou n'a pas fait. Alors qu'il est là, que le grand Dieu est là, il est tout puissant, et qu'il n'y a pas à être insatisfait, il est là. C'est parce que moi je m'y prends mal dans ma foi. Je me comporte avec mes sentiments et mes ressentiments envers Jésus. La foi n'a rien à voir avec le sentiment. La foi, c'est un acte de confiance qui est une fois pour toutes décidé et résolu envers la personne de Jésus. La seule manière de voir de véritables signes de Jésus, c'est d'être dans cette foi-là. Quand on est dans la foi charnelle, on aura toujours des aigreurs et des amertumes, parce que Dieu ne peut pas bénir ce type de foi. Alors, parce qu'il n'a pas dans son plan prévu ce type de foi. La foi n'est pas basée sur la chair, sur des choses qui viennent de moi. La foi est un don que je reçois. C'est la confiance. Et si je me laisse attirer, je dois me laisser conduire à toujours faire plus confiance en Jésus. Que ça marche bien ou ça ne marche pas, que j'obtienne ce que je veux ou que je n'ai pas obtenu, qu'il tombe des cailloux ou qu'il tombe de la pluie. La foi, c'est une assurance, une force intérieure qui nous attache à Jésus. C'est l'action du Saint-Esprit, c'est un scellement. Vous voyez bien les pierres dans ce mur, elles sont scellées entre elles. Il n'y en a pas une qui oserait sortir du mur. C'est impossible. Qui pourrait en sortir? Vous voyez bien les carrelages, ils sont scellés, il y a de la colle, il y a des joints qui sont rentrés. Vous voyez bien que la poutre ici, elle ne peut pas sortir du mur de chaque côté et tomber, faire crouler tout le tas de bois qui est au-dessus et le béton. Elle est scellée. De quelle manière suis-je scellé à Jésus, mes amis? Est-ce que je suis scellé parce que Dieu m'a scellé? Ou est-ce que je suis scellé quand je veux bien et quand je peux bien, etc. Et ça dépend de moi tout finalement. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Paul l'a dit dans Philippiens, c'est Dieu qui fait en moi le vouloir et le faire. Paul l'a dit. Paul a dit, j'ai été crucifié en Christ. Donc, cette façon de croire doit être crucifiée, doit disparaître, mourir. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À un moment donné, il faut laisser la place dans notre âme, dans nos sentiments, dans nos raisons, à la personne de Jésus. Tout. Et comment? Il faut lire régulièrement, il faut s'alimenter à la parole de Dieu, et finalement s'installe une bonne connaissance du Christ, de Jésus, et on a ce cadeau de le voir là, de le comprendre qu'il est là, et qu'il n'est pas dans notre poche, n'est-ce pas? Il ne va pas faire ce qu'on veut. Non, il va falloir que nous, toujours, on fasse l'effort d'obéir et de faire ce qu'il veut. Ça, c'est bien évident. La foi nous amène à l'obéissance, comme Jésus était obéissant à son Père. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 4, verset 24, 14, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Donc, je reprends Apocalypse chapitre 1, verset 4, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront qu'aux yeux de lui. Donc, il y a ceux qui vont se lamenter, ils seront en grand nombre. J'espère que ce ne sera pas les chrétiens que nous sommes, hein, mais que nous réjouirons. Les lamentations sont pour ceux qui voient que tout s'évanouit. Ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Je vous dis qu'on ne met pas Jésus dans sa poche. Évidemment qu'il faut le savoir déjà tout de suite. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, tout puissant. Alors Jésus va apparaître dans la gloire, évidemment, il va se montrer. Et je lis un peu plus loin dans Apocalypse 1, verset 12, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et je, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux, comme les cataractes. D'où le Niagara. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts en main. Écris donc ces choses-là que tu as vues. Pour qui ? Pour nous, mes amis. Évidemment que c'est pour nous. » Donc, le petit Jésus de la crèche, ce n'est pas accidentel, on n'est pas dans le roman. C'est ce Jésus Seigneur qui vient d'être décrit par l'apôtre Jean, que Daniel avait vu à plusieurs reprises, 6 siècles avant. Hein? Cette personne de Jésus-Christ est infinie dans sa puissance, dans sa grandeur, son intelligence, mais elle a choisi de vivre modestement, humblement. Pourquoi ? Pour manifester ce qu'est un être humain sans le péché. Sans le péché, sans l'œuvre de tout ce qu'on a reçu d'Adam et Ève, et un être humain qui ne répond pas à Satan, qui ne lui donne pas d'honneur. Donc, c'était un fait exceptionnel que Jésus soit manifesté en gloire pour montrer ce qu'il est en réalité et qu'il sera devant nous lorsqu'il viendra face à face, nous le verrons comme ça, et c'est finalement ce qui nous attend, ce qu'ont vu Pierre, Jacques et Jean, ce Jésus de Nazareth en gloire. Mais tous les jours de sa vie sur terre, Jésus, avec tout ce que Vincent vous a raconté, vous voyez bien, déjà l'autre fois, puis aujourd'hui, qu'il vit humblement, par choix, par décision, divine. Divine. Alors, il fait quoi ? Il fait quoi ce brave homme, Jésus de Nazareth, qui ne paye pas de mine ? Hein ? Eh bien, il parle sur la montagne, il s'assied. Il parle à ses disciples. Il leur dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont affligés parce qu'ils seront consolés. Heureux les débonnaires, donc ceux qui ont de l'amour pour les autres, actifs. Hein? Et etc. Donc, Jésus invite l'homme à vivre sans le péché. Jésus invite l'homme à vivre dans la vérité. C'est sa première mission. Et il invite l'homme à être une lumière, pas à être une ténèbre, pas à être quelqu'un qui étouffe les autres, qui les assombrit. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Matthieu, chapitre 5, versets 14 et 16. Est-ce qu'en 2017, nous voulons être une lumière pour les autres ? Nous voulons être une lumière dans la modestie, dans la vérité, sans l'orgueil. On ne se fera pas lumière malgré soi. On sera lumière si on vit en communion avec Jésus, si on lui a donné toute la place dans notre cœur, dans notre vie. Voilà ce qui est important, tout le chapitre 5, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, eh bien, il y a de moins en moins de justice sur la terre. Hein? Il y a de plus en plus de mensonges, évidemment, et heureux ceux qui procurent la paix, ben, vous savez, la paix, avec tout ce qu'on produit comme arme, hein? Et tous les films qu'on montre aux enfants, ben la paix, elle n'est pas en promotion. C'est qu'un mensonge. Il faudra bien se dire que si je suis avec Jésus, je ne suis pas comme les autres, je ne vis pas comme les autres. Parce que les autres veulent la paix pour eux, pour leurs avantages, mais ils ne veulent pas la vraie paix. S'il y a la vraie paix, il y a la vraie justice. Parce que la vraie justice amènera que tout le monde ait à manger sur terre. Et chaque enfant a le droit d'aller à l'école, chaque enfant a le droit d'être enseigné dans la vérité, pas dans le mensonge. Chaque enfant a le droit d'être amené à la lumière. Donc les adultes ont une mission, c'est de porter en eux la lumière de Christ pour que les enfants la découvrent, la connaissent. Donc tout cela, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu, les amis. Et Jésus parle à tout le monde, à Capernaum sur la colline, et il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il invite. Vous savez ce qui se passe. Dans toutes les religions, on impose pour être les plus fort que l'autre religion en face. Et parce que les hommes politiques, les hommes qui ont de l'ambition dans la société, ont besoin de la religion pour développer leur pouvoir. Ça va de pair. Les prêtres et les chefs d'État vont ensemble, mais pas Jésus. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, et lui, humble, sans aucun titre de prêtre, sans aucun titre de roi, humble, de manière à ne pas céder au péché. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Qu'est-ce que c'est difficile, les amis, de ne pas vouloir répondre à l'orgueil qu'on a en nous, à l'orgueil auquel on est invité, que notre société nous fait. Qu'est-ce que c'est difficile d'apprendre aux enfants, à nos enfants, aux petits-enfants, aux adolescents, à ne pas être orgueilleux, être humble de cœur. L'obstacle premier de l'homme, c'est le péché. Jésus le sait. Il ne va donc pas en faire la réclame, il va vivre humblement, sans le péché. Et il va être un modèle, le vrai, et je pense le seul. Donc Jésus dit de prier dans sa chambre, et de ne pas multiplier de vaines paroles. Matthieu 6, versets 6 et 7, c'est parce qu'il fait lui-même, les amis, tous les jours, régulièrement. C'est parce qu'il veut apprendre à ses disciples aussi à prier comme ça. Parce qu'ils ont prié. Ils ont appris à prier devant les autres. Ah oui, et puis il faut mettre dans le tronc, puis il faut mettre telle chose. Ils ont tous appris ça. Ah, il faut qu'on soit vu. Hein? Et il faut qu'on regarde les autres aussi. Hein? Et quand on rencontre beaucoup de gens qui viennent, par exemple, du judaïsme traditionnel ou de l'islamisme, l'islam traditionnel, ils ont toujours, et même c'était comme ça quand on était éduqué étant petit, dans chez les catholiques, le regard des autres est plus important que Dieu finalement, que la personne même de Jésus-Christ qui est là. Le regard des autres était le vrai critère. Eh bien pour lui, Jésus, il n'y a pas de regard des autres, il y a le regard de son Père, Dieu seul. Matthieu 6, verset 3, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, mais que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Déjà, l'amour pour les autres, sans le mettre dans la gazette. Écoutez, l'année passée, un restaurant, ils ont accueilli des réfugiés chez eux pour leur pain de Nouvel An, c'était dans le journal. Et il y avait quelqu'un qui m'avait proposé, qui tient une friterie, il me dit, tu ne saurais pas me trouver des réfugiés pour qu'ils viennent souper, et on leur payerait gratuitement. Je me dis, je me suis douté, ils vont encore le faire passer dans le journal, ils demanderont encore avoir une photo. Oh mais j'ai pas pu marcher dans la combine. Parce qu'on voit l'intérêt d'attirer les gens, ah c'est quand même des braves gens, on va aller manger là, ils font du bien aux autres, mais non, ils n'en font qu'une fois. S'ils font vraiment, c'est tous les jours et toute leur vie. Ça, c'est du marketing. C'est utiliser l'amour pour faire du marketing. Jésus, jamais. Jamais. Matthieu 6, verset 4. Afin que ton aumône ne se fasse en secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, c'est une relation de vérité entre le Père des cieux et soi-même. Maintenant, continuons, versets 5 et 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, donc les acteurs de théâtre qui mettaient un masque en bois, hein, à cette époque-là, la civilisation grecque faisait ça, et dans le bois, dans le masque, il y avait comme un cône, si vous voulez, ça faisait un porte-voix. Quand vous voyez des manifestations en rue, des syndicats, ils ont un porte-voix. Eh bien, le masque était assez lourd, et il y avait un porte-voix taillé dedans, et l'amphithéâtre, là où les gens étaient assis, en gradin, en rond, le son était dirigé de manière à ce qu'il se répercute. Il y avait un bâtiment en parallèle derrière, les acteurs qui étaient élevés, ça revenait le son. Hein? Et c'est le masque de l'acteur de théâtre qui joue sa comédie, son drame, etc. C'est, eh bien, Jésus dit de ne pas être un acteur de théâtre, ou même de cinéma aujourd'hui. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les maisons de prière et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le lieu secret, c'est le cœur, les amis. Hein? Le lieu secret, c'est le cœur. Continuons dans le chapitre 6 de Matthieu, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Hein? C'est le coup du ramadan, hein? Qui a été copié après les croisades par le catholicisme. On a inventé le carême, parce que Jésus n'a pas instauré ça. Alors, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, quand on jeûne longtemps, même si on ne dit pas, le foie et tout se nettoie et on a une haleine de phoque. Je vous le dis, on a une haleine de phoque. Alors ceux qui sont alentour savent bien, même si on ne le dit pas, que le jeûne est là. Mais parfume ta tête, lave ton visage, ben oui, pour ne pas sentir la laine de phoque. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Maintenant, regardons pour l'argent. Dans le chapitre, les chapitres 4 à 7 de Matthieu, tout y est pour voir comment Jésus veut qu'on vive. Hein? C'est à méditer toute sa vie, ces chapitres-là. C'est souvent ces chapitres-là qui touchent beaucoup de musulmans pour la conversion. Mais quand on le met sous le nez des Européens, eux, ils n'en veulent pas. Pour eux, ça les dérange. Et ils s'insurgent, ils s'endurcissent. Les Européens d'aujourd'hui, n'est-ce pas? La présomption est venue et Jésus n'a plus de place. Parce que comme Jésus n'est pas présomptueux, ben, c'est pas intéressant. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Vous savez que la Belgique, un petit pays de 12 millions d'habitants, a 290 milliards d'euros en compte et 100 milliards en fraude dans d'autres pays. Pour un petit pays comme notre pays. Avec ça, il n'y a pas de dette en Belgique. Vous prenez la même chose en France, il n'y a pas de dette en France. Les États ne seraient pas endettés. Tous nos pays européens sont endettés, et les États-Unis aussi. Or, pourtant, si on gratte un peu, on voit qu'il n'y a que du mensonge. Mais à cause de ça, parce qu'un certain nombre de gens sont sur un trésor pourri que Dieu leur retirera, ils sont en train, de s'en prendre aux plus faibles, on ronge sur les salaires. On ronge sur les salaires, on ronge sur les cotisations de maladie. On est en train de faire quelque chose de terrible. On s'en prend aux plus faibles, ceux-là qui ne pourront pas de toute façon se défendre. Et on dira aux enfants, il faut se battre, hein, il faut se battre, il faut se battre, il faut être performant. Oui, il faut être performant. Mais l'autre, qui est plus performant après moi, 10 ans après, eh bien à 40 ans, je suis foutu. 45 ans, je fais quoi? Je fais de la dépression, je me suicide. C'est du chantage. Le vrai problème est autre part. L'argent est là, mais il n'est pas partagé. Et Jésus avait donc raison de dire, ne venez pas prier Dieu, ne venez pas me voir, si vous êtes comme ça. Malheureux riches. Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Eh bien oui, évidemment, encore aujourd'hui. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous de trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Évidemment que mon cœur, si j'aime l'argent, il va s'investir totalement là-dedans, de plus en plus. De plus en plus, il n'y aura plus que ça qui comptera. Si évidemment je m'investis dans Jésus, il n'y a pas du tout la même pathologie. Il n'y a pas du tout la même trame intérieur dans le cœur et dans l'âme. Il y a une immense confiance, si on se repose sur Jésus, une immense confiance sur la personne de Jésus ressuscité, présente ici, Iken Nung, aujourd'hui. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ce Jésus ressuscité, ou l'amour des choses du monde et de tous les vices de l'âme. Entre les deux, c'est impossible. Ça donne toutes les névroses spirituelles, tous les échecs de vie spirituelle, si on veut mélanger les deux. Alors, quand Jésus parle à ceux qu'il rencontre, il dit, mais fais attention comment tu regardes avec ton œil. Tu peux regarder une plante avec amour. Eh bien, moi je me suis relevé, je dois me relever plusieurs fois dans la nuit. Et qu'est-ce que je vois? Mais encore, à 4h30 du matin, on joue la boule là-bas, au bowling, et on boit. Qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on va se lever dans la journée? Quand est-ce qu'on va aller adorer Dieu? Le jour du dimanche? Avec l'œil, je regarde des boules, etc. Je bois, je regarde les copains, et puis on va dormir, et puis on va se lever à 2h, 3h l'après-midi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir faire des boules. Ou, avec l'œil, je regarde ce que Dieu me donne, simplement, je vis simplement, je contemple la gloire de Dieu à travers les choses, et je parle à Dieu avec mon cœur, parce que mon œil est une bonne lampe pour voir la présence de Dieu, pour voir la grandeur de Dieu. Lisons Matthieu 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Évidemment, quand quelqu'un est dans les ténèbres, qu'il a choisi d'être comme le monde le propose, ses œuvres, regardez, seront grandes. Dans les ténèbres, au verset 23, combien seront grandes ces ténèbres? Ça va se développer, la ténèbre. Et c'est comme ça qu'on voit des gens à 40, 50 ans, 60 ans, qui, parce qu'il y a tellement de ténèbres, ils en ont tellement marre, ils en voient être le conjoint. Et ils changent pour essayer de trouver l'amour idéal, qui n'existe pas, pour essayer de trouver le soulagement de l'âme, etc. Les ténèbres sont très lourdes sur la terre. Et Dieu nous a demandé de choisir. Quand il parle des petits oiseaux qui mangent dans la nature, quand il parle du lys des champs qui est bien vêtu dans Luc chapitre 12 et dans Matthieu chapitre 6, au verset 26, eh bien, il nous invite simplement à admirer la gloire des choses que Dieu donne, la gloire de Dieu à travers la gloire des choses qu'il donne. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean, de peu de foi? Donc Matthieu 6, 30, Jésus dit, vous aurez une gloire encore plus grande si vous vous laissez conduire par moi. Au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, donc la sainteté. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous voyez, Jésus a quand même donné un enseignement qui est unique. Il y en a beaucoup d'autres. On va prendre maintenant le fait de guérir des personnes. Alors je prends un récit dans Matthieu chapitre 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, va te montrer au prêtre, présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Et vous voyez, plusieurs fois comme ça, quand Jésus guérit, il change de chemin, il part de la localité. Pourquoi? Parce que cette gloire qui existe dans les humains n'est pas la gloire, c'est que du mensonge. La vraie gloire, c'est celle qu'il aura après la croix. C'est la gloire aussi quand il reviendra sur la terre établir son règne. Toutes les gloires de ce monde ne sont que des mensonges. Elles viennent du diable. les gloires de ce monde viennent du diable, les amis. Dans Matthieu 4, verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Vous voyez, c'est tranché à Jésus. Et donc, nous pouvons prier pour quelqu'un, nous pouvons demander à Jésus, sachant bien que c'est uniquement pour que Jésus agisse pour cette personne. Nous n'en retirerons jamais aucun intérêt, jamais. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Matthieu 8, verset 5, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai, je guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Pourquoi est-ce que la foi de cet homme est plus grande que celle des religieux qui ont la Torah, la Bible, et qui vont au temple, et qui sont circoncis, etc. Pourquoi ? Parce qu'il sait que si Dieu décide quelque chose, il le fait, il n'y a rien qui l'arrête. Donc, si je demande à Dieu quelque chose et qu'il me l'accorde, il le fait. Il le fait. Voilà, les amis. Voilà comment Jésus montre sa foi envers son Père des cieux aux autres. Et voilà comment il apprend ses disciples à avoir une foi de la même manière envers lui. Envers lui. Dans Matthieu 9, on lui emmena un paralytique, verset 2, couché sur un lit. Jésus voyant leur foi, donc de ceux qui lui amenaient, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Afin que vous sachiez qu'un fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner péché, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Aujourd'hui, Jésus de Nazareth, ressuscité, peut pardonner le péché en 3 minutes, en 10 secondes, de la même façon, à un être humain, comme il l'a fait là. Pour ce paralytique. Jésus est le Tout-Puissant, Jésus est Saint, et il peut bouleverser une vie entière et balayer son péché. Aujourd'hui, l'homme n'a pas le pouvoir en lui-même de résister à son péché, de le dominer, de l'écraser. C'est impossible. C'est coriace le péché en nous. C'est coriace. C'est un véritable poison, c'est une puissance venue du diable. Qui a passé par Adam et Ève, qui ont dit oui, qui ont signé un contrat pour les autres. Mais ce péché ne résiste pas à Jésus. C'est pour ça qu'il faut avoir une foi toute simple, se donner à Jésus entièrement. Parce que c'est lui qui écrase sous ses pieds le péché, et celui qui l'a emmené sur la terre, Satan. Aucun de nous ne peut dominer sur son propre péché s'il vacille dans sa foi envers Jésus, s'il cloche d'un pied sur l'autre, mes amis. Or, Jésus de Nazareth, ressuscité aujourd'hui, est vivant. Et à l'époque où il a montré, vous vous rappelez tous les récits qu'a fait tout à l'heure Vincent, c'était si humble. Il est difficile de croire que quelqu'un de si humble soit si puissant. Eh bien, ça, c'est le défi de la foi. Parce que nous ne faisons confiance qu'au puissant. Nous ne faisons confiance qu'à ce qui brille, qui paraît fort. Et il faut faire confiance à ce Jésus de Nazareth qui était si humble. Ésaïe 53. Notre foi nous oblige à basculer tous nos raisonnements, toutes nos catégories mentales, tous nos mauvais réflexes installés par Adam et Ève. Puis j'arrêterai, je reprendrai sur Jésus de Nazareth une autre fois, mais c'est en continuité avec Noël. Noël, c'est pas pour faire une petite histoire avec des bougies et des lampes. Noël, c'est le renouvellement de l'humanité. Noël, c'est le sauveur qui vient pour transformer les hommes. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ça veut dire, ben, il n'y en a pas beaucoup qui vont y croire. Hein? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ben oui, il n'y en a pas beaucoup qui vont essayer de le comprendre. Hein? Mais pourtant, ça va arriver. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Regardez l'image de Jésus. Il s'est élevé devant lui, donc devant Dieu, devant l'Éternel, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Donc Jésus est simplement en train de pousser dans un désert où il n'y a pas d'eau, où normalement il n'y a rien qui pousse. Et le rejeton, ben, il y a tout d'un coup, quelque part, pend une plante qui pousse. Vous avez déjà vu ces photos parfois du désert? À perte de vue, il n'y a rien du tout, et puis il y a un arbre. On se demandait comment il est arrivé là. Ben, c'est tout. C'est l'image de Jésus. À se demander pourquoi il est ici. Pourquoi il est venu sur terre, dans ce pétard général. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas venu à l'époque où il y avait Hollywood et les beaux films, hein. Les beaux grands cheveux, les beaux yeux bleus, etc. Et puis, non. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné, les hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, n'avons fait de lui aucun cas. Je dis, Seigneur, éclaire-moi, je peux aller où je veux dans la Bible, à force. Mais ce qu'il y a prêché, c'est, il faut dire quelque chose qui vient... Il concerne vraiment aujourd'hui, notre aujourd'hui, de nous, ici. Alors, je me rappelle ce rocher avec les crânes, le crâne, les yeux, la bouche, à Jérusalem, que j'ai vu, et le tombeau. Hein? Je me rappelle ça. C'est un lieu sinistre. Et ce n'était pas un lieu intéressant. On y avait crucifié des centaines de gens. C'est un lieu maudit, horrible, dont on ne fait pas la réclame. C'est un lieu de charnier, c'est tout. Pratiquement, Jésus, le Fils de Dieu, cet homme sans péché, cet homme qui est saint, va là, et puis pan, réglé, c'est fini, réglé. Mais il y a combien de gens sur la terre, c'est fini, ils disparaissent, c'est réglé. Ils sont rien du tout pour personne. Il y en a plein. Sur terre, il y en a plein. C'est horrible. Jésus aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que, après, des petits hommes et des petites femmes qui n'étaient pas super malins, qui n'ont pas eu tous les courages, c'est pas des grands champions du courage, ont cru en lui, l'ont vu, et ont commencé à le faire connaître. Ils ont commencé à le faire connaître et à parler de lui. Mais ça aurait dû échouer. Un lieu maudit, un lieu exécrable, hein, dont on ne fait la réclame pour personne, un lieu où tous les gens oubliés de la terre sont mis, et puis des gens qui n'ont pas d'importance, qui ne sont ni puissants, qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'argent, rien du tout. Des paumés. Mais qu'est-ce qui s'est passé, les amis? C'est que quand ils parlaient de Jésus, Jésus était avec eux, Jésus ressuscité était avec eux. C'est ça qui a fait la différence. C'est ça que le pauvre Pierre, le pauvre Jean, le pauvre Thomas, le pauvre Matthieu, tous ces couillons du début, tous ces peureux du début de l'Église, Marie de Magdala, etc., tous les autres, tous ces gens-là, chaque fois qu'ils ont parlé, Jésus a agi. Il a accompagné leurs témoignages de signes puissants. Ils ont pu aussi prier pour des guérisons. Ils ont pu aussi prier pour être libérés de la prison, que les chaînes tombent. Donc Jésus est vivant, les a accompagnés. Mais eux en eux-mêmes n'avaient aucune gloire. Ils n'avaient aucun moyen de faire la fondation de l'Église et de fonder le royaume des cieux. Mais la puissance est en Jésus. La grandeur est en Jésus. Et pourtant, on ne voit que Pierre, Jacques et Jean, Marie de Magdala, Marie, on ne voit pas de puissance. On ne voit pas rien dedans. Parce que la vraie puissance, les amis, elle est toujours humble, sans orgueil. La vraie puissance s'allie à la vérité. Et les fausses puissances s'allient au mensonge. Les puissances du monde veulent se faire voir, elles sont liées au mensonge et au diable. La vraie puissance de Dieu, l'intelligence qui fait que toutes les planètes, tout est orchestré, la vraie intelligence de Dieu ne se fait pas voir comme les vedettes, comme les puissants du monde. Dieu ne vient pas faire des allocutions tous les 5 minutes à la TV. Dieu manifeste sa gloire tous les jours, jour et nuit, dans sa puissance, d'une manière humble, stable, vraie. La même chose pour Jésus de Nazareth ressuscité. Il est à l'image de son Père. Donc, aujourd'hui dans nos vies, nous nous reposons sur le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur, le Dieu qui aime l'homme, le Dieu qui a donné son fils Jésus, qui l'a ressuscité. Nous nous reposons sur Jésus de Nazareth ressuscité. Et il est plus réel que mon visage quand je me regarde dans la glace. Donc, relisez bien ce texte de Isaïe 53. Et juste avant, « Mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Bien oui. Au fur et à mesure du temps, il va arriver à apparaître en gloire, alors qu'il n'a pas choisi de fabriquer une gloire vaine et artificielle. Il sera élevé par le Père, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui d'un fils de l'homme. Ben oui, des hommes orgueilleux, de tous les hommes qui veulent se mettre en valeur. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Forcément, on ne leur a pas raconté, ce Jésus de Nazareth n'intéresse plus. On le voit bien. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Donc vous voyez finalement que Jésus de Nazareth, en qui nous croyons, qui a demandé que nous donnions toute notre vie à lui, Jésus fermera la bouche à tous les puissants. Ils fléchiront le genou. Ils contempleront sa gloire. Alors nous reprendrons ce thème. Jésus a donné des enseignements d'humilité, de petitesse, de vérité. Il a guéri des hommes et des femmes avec amour et simplicité, sans rechercher le marketing. Et il a pardonné les péchés aux paralytiques, autant qu'il a guéri ses jambes. Il a pardonné les péchés à l'homme sur la croix. Il a le pouvoir de pardonner. Sans père, de grande basilique, de grande cathédrale, de grande mosquée, il a pardonné le péché. Sans la gloire humaine, Jésus délivre du péché. Aujourd'hui, Jésus, sans la gloire humaine, veut habiter dans ma vie. Il veut être au centre de ma vie. Il est l'antimodèle de tout ce que j'ai vu, de tout ce qu'on peut aimer sur la terre. L'antimodèle. Il est le roi de paix, le roi de sainteté pour ma vie et je l'espère pour la vôtre. Amen.